Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, 20h comme tous les lundis soirs. On parle football dans On joue la prolongation pendant une heure et bien on joue la prolongation qui va commencer tout de suite. Et on va. Lundi 8 avril 2024, on parle de football pendant une heure et puis on a de quoi parler aujourd'hui, hein, avec un week-end qui a laissé perdre des plumes au leader du championnat de Belgique. On parlera également de la Ligue des Champions qui reprend ses droits à partir de demain avec quelques belles affiches. Ma foi, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Ce soir avec nous, Steve Gris. Salut Steve.
Salut Blaise, salut à tout le monde.
Alex Demeter, salut.
Salut Blaise.
Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Vous avez passé un bon week-end ?
Bah plutôt parce que
le Standard est invaincu.
Oui, quoi, le Standard joue encore, j'ai plus suivi.
j'ai cru entrevoir une lumière à ce qu'elle est sain.
J'ai entendu à la radio à un moment qu'il jouait, mais je n'étais pas sûr que c'était un match officiel ou non parce que il n'y avait pas de bruit, le stade était désert, donc je me suis dit que c'était peut-être un match d'entraînement. Et en l'occurrence, je crois que c'était un match d'entraînement.
Et je le disais donc dans l'introduction, les deux leaders bruxellois ont perdu des plumes ce week-end. On va direct se jeter dans le bain. On parle donc Pro League, évidemment. Et alors, on va commencer par le plus frais, c'est l'Union qui a perdu 2-3 hier face au Cercle de Bruges. Le Cercle de Bruges qui enchaîne dans ses playoffs. Des unionistes qui perdent leur deuxième match d'affilée depuis le début de ces playoffs et 4 matchs sans victoire en championnat. C'est la première fois depuis qu'ils sont remontés en D1 en 2021-2022. C'est donc plutôt un petit séisme qu'il y a eu au Stade Marien. Mais, et Steve, je sais que tu l'as travaillé pour nous, ce qui a fait parler aujourd'hui, c'est l'imbroglio autour de Christian Burgess, qui était en tribune, mais qui pouvait jouer.
Oui, ben là, on est vraiment de nouveau dans ce qu'on appelle les vicissitudes de l'amateurisme du football en Belgique, qui finalement se veut professionnel, à certains accès professionnels, mais reste quand même amateur sur énormément de procédures. Et celle-ci était particulièrement marquante, avec, je pense, des responsabilités collectives. Il ne s'agit pas de dire qui était bon, qui était mauvais. Je pense que tout le monde s'est un peu trompé. Pour ne pas rentrer dans des questions juridiques extrêmement complexes, il faut savoir que Christian Burgess, qui s'est pris sa première carte, qui est un élément clé, on va y revenir, de l'Union. Pourquoi ? Parce que l'Union, j'y reviendrai après sur le fond, manque complètement de défenseurs. Et donc lui, il est à la fois le seul vrai défenseur central et aussi un pilier de l'équipe avec son expérience.
Et le capitaine.
Voilà, qui est absolument indispensable pour l'Union. Il s'est pris la première carte rouge de sa carrière avec une proposition du parquet qui était de dire... Il était suspendu 2 matchs fermes avec un match de plus avec sursis. Il y a eu un recours de l'Union et ce recours de l'Union a permis de diminuer cette peine à 1 match ferme. Et donc l'Union s'est dit, il peut jouer contre le Cercle de Bruges et il reviendra, vu qu'il y a un autre match avec sursis, il reviendra pour les deux matchs suivants qui sont quand même très importants pour l'Union, c'est-à-dire d'une part contre Bruges et d'autre part contre Anderlecht. Ce qui s'est passé seulement, c'est que l'Union belge avait annoncé qu'elle envisageait, le parquet envisageait de faire appel de cette décision déjà introduite sur recours. Et alors, ça c'est absolument incroyable, l'Union aurait reçu le mail annonçant qu'un appel avait été introduit dimanche à 15h, c'est-à-dire en plein pendant le match...
Deux heures après
le coup. En plein pendant le match où était en train de jouer l'Union, donc... L'Union, ces informations qui m'ont été rapportées, en tout cas directement, sont exactes, l'Union reçoit un mail à 15h pendant son match qu'il y a appel. Cet appel est suspensif de la décision, ce qui fait que Burgess aurait pu être sur la feuille de match, aurait pu jouer, et on aurait attendu le recours, l'issue du recours qui doit être plaidé, je pense, demain, pour voir si oui ou non et pour combien de matchs il aurait pu être suspendu. Mais donc, il y a un vrai amateurisme de toutes parts dans cette histoire. L'Union belge s'est quand même un tout petit peu gonflé de se dire qu'on a introduit son appel alors qu'à un moment, on le notifie par écrit, ce qui est quand même le moment où l'appel est introduit. Pendant que le club joue un match, alors qu'on sait pertinemment bien que le joueur ne joue pas à ce moment-là, pour cause de décision qui n'est pas encore susceptible d'appel au moment du coup d'envoi, et ensuite de l'Union qui sait quand même que cette question est en suspens, vu que l'Union belge aurait annoncé oralement, en tout cas le parquet, l'intention d'introduire un appel. On est, bon, j'ai dit que je ne serais pas technique, finalement, je l'ai été. Tout ça pour vous dire qu'on est dans un véritable imbroglio où je pense tout le monde est un peu responsable et où finalement, qui est perdant, c'est le joueur, c'est le club, c'est l'Union belge et ce sont tous les supporters.
Est-ce que l'Union paye son comportement avec la Fédé?
Avant de répondre à cette question qui est assez pertinente, on va quand même préciser deux, trois choses de ce que Steve disait. Généralement, quand on est dans un club, on a le sécu qui est responsable pour toutes les affiliations de joueurs. On a aussi le service juridique. Et la fédération, quand elle notifie par téléphone un club, ce n'est pas assez. Donc on n'a pas de preuves, mais généralement, elle notifie par téléphone, mais le mail est prêt à partir et il arrive dans les 3 minutes qui suivent. Ce qui n'était pas le cas cette fois-ci pour une raison qu'on ignore. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, c'était suspensif. Par contre, l'Union, avec un peu moins d'amateurisme dans le club, ils pouvaient eux-mêmes aller en appel. Et là, c'était de toute façon suspensif en dessous de 5 matchs d'exclusion et d'être écarté des terrains. Donc, si l'Union avait été en appel, elle aurait risqué peut-être d'avoir plus.
Pourquoi aurait-elle été en appel si elle a déjà, finalement, ils avaient obtenu gain de cause, c'est-à-dire d'avoir un match en moins?
Tu passes de 2 plus 1 à 1 plus 1, ouais.
Et ils se sont dit, très bien, il est suspendu contre le Cercle de Bruges, ce qui est le match le plus simple.
Ouais, bien sûr.
Je parle évidemment de leur position avant le match. Hein.
Ouais. Mais c'est mieux de ne pas l'avoir contre Bruges que de ne pas l'avoir contre Anderlecht.
Voilà. On parle du Cercle. Mais non, et puis, finalement, deuxième chose, l'Union pouvait prendre les devants aussi. C'est déjà arrivé maintes fois que dans des semaines spéciales, qui sera mon troisième point, il y ait ce genre de problèmes juridiques et de suspension. Mais là, l'Union pouvait prendre les devants, elle pouvait contacter le parquet, elle pouvait demander, elle pouvait le savoir. Si l'Union était moins naïve et moins amateur, elle aurait pu prendre les devants de cette chose-là. Et la troisième chose, comme Steve le dit, on est dans le pays du surréalisme. Et ce n'est pas la première fois qu'en Belgique, à la Fédération, on se dit « Bon, on a 99,5% de chance que tout se passe correctement. » Une semaine avec un lundi de Pâques où toutes les procédures sont forcément repoussées aux journées ouvrables, oh, ça n'arrivera pas. Mais systématiquement, ça arrive. On se retrouve à chaque fois dans ce cas de figure le plus unique au monde. Et ça, c'est dû aux règlements qui sont mal faits. Si maintenant le règlement stipule que le parquet a autant d'heures ouvrables pour faire appel sur la suspension d'un joueur de Pro League, jusqu'à, mettons, 6 heures avant le début du match, parce que la feuille de match doit rentrer d'une heure et demie à 2 heures avant le début du match. À ce moment-là, tes règles sont cadenassées et les procédures sont claires pour tout le monde. Et je vais revenir à ta question, Blaise, qui était
l'Union paye-t-elle son comportement avec la Fédé?
Eh bien, on se posera la question, parce que c'est quand même étrange que le procureur attend aussi longtemps pour faire son appel, et surtout un dimanche à 15h, qui faisait beau.
Oui,
tout le monde avait autre chose à faire.
Non, mais ça, c'est pour moi inadmissible. Hein. Si on rentre dans ces considérations-là, on a déjà suffisamment dit que la fédération était trop proche pendant des années du club de Bruges, très longtemps très proche d'Anderlecht. Je pense que je ne peux, peut-être suis-je naïf, mais je ne peux pas imaginer que, alors que le parquet et les instances disciplinaires de l'Union belge ont une obligation d'indépendance, d'impartialité et surtout de traitement égalitaire de l'ensemble des membres de la fédération, qu'ils puissent se dire que parce qu'il y aurait eu des anicroches par le passé, il y aurait des mesures de rétorsion légales qui soient prises au détriment finalement en violant l'équité sportive dans le cadre de la mini-compétition qui est en cours. Je préfère ne pas l'imaginer, mais voilà, suis-je peut-être naïf?
Rétrospectivement, je sais que là on est dans le monde du surréalisme, mais rétrospectivement, est-ce que vous pensez que Burgas pourrait avoir purgé son match de suspension hier?
Non, parce que c'est je la bouge pas. C'est à ce moment-là, c'est suspensif. Donc il y a un appel, c'est d'office le prochain match.
Je connais un peu de par certaines personnes dans le dossier, mais pas tous les éléments au niveau interne. Je pense que ce qui va être plaidé demain, en tout cas, c'est justement l'erreur procédurale et le fait que la procédure doit tomber. Parce que il y a eu un problème au niveau de la transparence, du respect des règles et de savoir ce qui était attendu des acteurs. Et donc, oui, si on s'en tient à la rigueur de la procédure, on pourrait penser, ah oui, mais non, bah, il n'était pas sur la fin de match, mais il aurait pu jouer. C'est ce que tous les quotidiens ont titré. Et donc, là, il va assumer la suspension qui sera d'un, deux ou trois matchs à partir du match prochain, c'est-à-dire dimanche contre Bruges. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce que l'Union va plaider. L'Union va plaider le fait qu'il y a eu bel et bien des erreurs de procédurale de la part de l'Union belge, qui fait qu'il a suspendu, il y a eu son match de suspension est bel et bien intervenu là où on a pensé qu'il devait intervenir, c'est-à-dire contre le Cercle.
Dimanche, ce sera contre Anderlecht. Hein.
Je ne suis pas tout à fait sûr. L'Union a dit elle-même qu'elle avait été contactée par le parquet et qu'ils allaient faire appel. Donc, à ce moment-là, l'Union était au courant, même si ce n'était pas par écrit, elle était au courant que l'appel avait. Donc, en fait, l'Union a suivi certaines règles. La presse joue avec ça depuis hier midi parce que c'est une info assez intéressante et assez chouette à faire paraître. Mais techniquement, il n'y a aucun vice de procédure pour moi.
Oui et non, parce que c'est assez compliqué. Évidemment, on n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir rentrer vraiment dans la technicité du dossier. Mais il est vrai qu'à partir du moment où on annonce un appel, l'annonce orale d'un appel, et moi, dans ma vie professionnelle, je le vois aussi, peut-être une certaine manœuvre de bluff ou en tout cas dans le cadre de négociations et n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas notifiée. Maintenant, je dis, est-ce que, et ça devrait être plaidé, est-ce qu'on devait considérer que la décision ne pouvait pas être notifiée dès lors à un moment, surtout pendant que le match intervenait, donc que la décision qui a été rendue d'un match de suspension contre le Cercle de Bruges était définitive ou non? Est-ce que l'Union savait ou devait savoir que la situation était celle-là? C'est ce qui sera plaidé demain.
Venons-en au match maintenant quand même, parce que on va...
c'est toi qui commence avec les questions juridiques.
Avant d'aller au match, maintenant qu'on a un juriste avec nous, qu'est-ce que tu penses qui va se passer demain? Est-ce qu'on est reparti dans un truc oui, non, oui, non, oui, non, comme Anderlecht Genk par exemple?
Mais je le crois vraiment. Je le crois tout à fait. Parce que, et je vais y revenir, je mets ça en lien avec la question sportive.
Tu peux rapidement nous rappeler Anderlecht Genk et la conclusion? Donc, rapidement pour...
Anderlecht Genk, la question était, est-on par rapport à une erreur de jeu ou une erreur d'arbitrage, hein? Vous rappelez, suite au pénalty, deux instances internes de l'Union belge avaient décidé que le match devait être rejoué, chose extrêmement rare. Le recours ultime est devant la Cour belge d'arbitrage du sport. Et la Cour belge d'arbitrage du sport a pris une décision contraire, donc qui est indépendante de l'Union belge, hein, a pris une décision contraire aux deux instances de l'Union belge en indiquant que non, ce match ne devait pas être rejoué. Et donc, alors je ne sais pas si ça ira jusque devant la CBS, devant la Cour belge d'arbitrage du sport, mais je crois que les enjeux, et on va y revenir sur les play-offs, il y a une telle...
Ils sont majeurs.
Tension. Une telle violence dans les sentiments, dans l'angoisse, dans la crainte, qui pour moi, je vais déjà teaser, pour moi j'ai toujours été un anti-playoff, mais je me dis cette année encore plus que jamais. Les vrais supporters prennent très très peu de plaisir aux playoffs, les amateurs de foot prennent plaisir, c'est une grande différence. Mais je crois qu'on est parti pour quelque chose, tant qu'il y aura des recours, vu l'imbroglio que c'est, je ne pense pas que ça va être terminé de si tôt. Parce que les enjeux sont trop importants et parce que les erreurs communes sont quasi incontestables. Tout le monde a fait des erreurs là-dedans. Donc il y a matière à trouver des failles un peu chez chacun dans cette procédure.
On s'expose en fait à ce que cette affaire ne soit pas réglée avant la fin du championnat.
Ça je ne crois pas parce que on parle quand même de choses qui doivent être. Il y a des règles très strictes en termes de timing. C'est d'ailleurs pour ça que l'appel est prévu demain. Si ce n'est pas prévu demain, je ne sais pas dans combien, je n'ai pas le règlement en tête par cœur, dans combien de temps est-ce que la décision doit être rendue, mais certainement dans les 24 ou 48 heures grand maximum. Et alors, ne connaissant pas non plus par cœur les institutions de l'Union belge qui sont très complexes, il y aura certainement encore un recours possible auprès de la Cour belge d'arbitrage du sport qui, à mon avis, devra rendre sa décision aussi certainement dans la semaine. Ce sera ce qu'on appelle un recours d'urgence.
Hein. Oui. Bon, maintenant on en vient au match. Deuxième défaite d'affilée donc dans ces playoffs, pire début possible pour l'Union. 4 matchs sans victoire, je le disais tout à l'heure, donc c'est la première fois depuis qu'ils sont remontés en D1 en 2021-2022 que ça leur arrive. Pire début. Pire début, Alex.
Bah, tu sais difficilement faire pire que 0 sur 6, effectivement, donc oui. Mais après, voilà, c'est une surprise parce que tout le monde a vu l'Union survoler le championnat, se qualifier en Coupe d'Europe, arriver en finale de Coupe de Belgique. Mais on a tous dit à un moment, il y aura un passage à vide et on est dedans en fait.
Et il arrive au pire moment possible.
Et la question maintenant est combien de temps il va durer ?
Parce que une victoire le week-end prochain à Anderlecht et tout est relancé.
Une victoire à Anderlecht et tu as joué 3 matchs de play-off pour rien, pour ainsi dire, parce que tu as de nouveau la même avance que tu avais au début. Un match nul la semaine prochaine, une victoire de Bruges face à l'Antwerp et de Genk face au Cercle, et tu te retrouves dans une course à 4 pour le titre. Presque.
Sur le terrain, comment vous l'expliquez cette défaite ?
Moi, je vais peut-être donner, en tout cas, j'étais au stade hier, donner mon sentiment. D'abord, je trouve que, et c'est ça que je disais dans l'aspect juridique, moi, je ne prends vraiment aucun plaisir à ces playoffs. Et je trouve que les gens autour de moi, les gens dans le stade, les supporters également, les amis que j'ai, qui sont supporters d'autres clubs d'Anderlecht, de Bruges, on n'est plus dans un championnat où on va au stade. Les gens vont au stade la boule au ventre. On a trop peur de perdre. Il n'y a pas le plaisir d'un match où qui se termine par un match nul. Des fois on a l'impression de pas avoir mérité. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment il y a un sentiment que je trouve assez désagréable. Tout le monde joue la peur au ventre, la nervosité est ambiante sur le terrain, dans les tribunes, et moi je prends vraiment beaucoup beaucoup moins de plaisir dans ces playoffs que pendant l'année.
J'étais aussi présent au stade et c'était j'ai l'impression que les gens étaient abattus en fait. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, et je pense que les joueurs aussi en fait le
ressentent. Après, ils encaissent 2 goals dans les 5 premières minutes. Hein. Ce n'est pas de nature. Non, mais on sent cette dynamique et je suis 1000% d'accord avec Alex. On savait tous que l'Union aurait un passage à vide. La question, c'était quand. Et moi, je pense que j'avais dit à ce micro, je suis inquiet pour eux que ce passage à vide doit pouvoir se passer pendant la phase classique.
Ouais.
Parce que pendant la phase classique, ce n'est pas grave, on perd des points. Mais on connaît l'Union et on sait que le passage à vide peut se dérouler, ce serait pas la première fois pendant les playoffs. Et comme l'a dit Alex, c'est exactement ça qui se passe. Il y a aussi deux, trois autres facteurs pour moi. D'abord, la nervosité. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont relax, mais ils ne sont absolument pas relax. Il suffit de voir, c'est pas mal ça, la manager cam qu'ils font maintenant depuis les playoffs à la télévision. Si vous voyez Blessing et le premier match contre Genk, lui qui est pourtant quelqu'un, bon après tout tournait bien donc c'était plus facile d'être à l'aise, hein, mais qui est plutôt quelqu'un assez gentleman, assez sympathique, assez courtois, très peu à discuter des décisions de l'arbitre. La nervosité qu'il avait lors du match de Genk, même avant le goal de Genk, hein, la nervosité qu'il avait, on sent que ce sont les chassés qui ont tout à perdre.
Tu le disais la semaine dernière, c'est que c'est la première fois qu'ils se retrouvent en chassé.
Et ils ont les jambes flageolantes, ça se sent. Les 5 premières minutes, outre les 2 goals, c'était incroyable de voir à quel point tous ceux qui les ont suivis toute la saison et qui sait qu'ils ne pouvaient en principe quasi rien leur arriver, de voir à quel point ils sont vulnérables. Chaque action qu'on voyait, on se disait, c'est potentiellement un but. Jamais on a pensé ça, de juillet jusque maintenant. Parce que je trouve qu'il y a plein de facteurs conjugués. Je vais juste les exposer et puis après, peut-être je laisse, on pourra passer un après l'autre. La question défensive, très mal gérée par l'Union. L'Union a un problème depuis le début de l'année, c'est qu'ils se sont pour la première fois un peu renforcés avec un tout petit peu de profondeur. Je suis d'accord. Plus, pas un noyau très profond, mais un peu plus de profondeur que les 2 autres années. Le bas blesse en défense. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de blessés, quand il n'y a pas de suspendus, ça va. Mais en défense, vous avez toujours des blessés. En défense, vous avez toujours des suspendus. C'est le poste où on se prend le plus de cartes jaunes. Et là, maintenant, il se retrouve dans une situation où, en effet, il y a eu des suspendus, il y a McAllister qui n'est pas là depuis longtemps, il y a Burgess qui commence à avoir des suspensions, Sykes, on voit qu'il a dépanné, mais il n'est quand même pas tellement à niveau en termes de régularité, sa relance est très bof, il fait quand même, il est pas très rapide, il a des problèmes de positionnement qui n'a pas Burgess. Donc, clairement, on voit que là, ils ont fait, à mon avis, une erreur tactique au mercato. On l'a posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de défenseur qui vient ? Vous faites venir un gardien, mais pourquoi pas de défenseur ? Non, on est très bien comme ça. Non, on n'est pas bien comme ça. On manque complètement de profondeur en défense. Et alors, vous avez, au niveau de l'intensité, des Puertas, des Amoura. Amoura, il a touché 3 ballons sur tout le match. Hein.
Ouais.
Donc on est vraiment, je trouve, dans ces vecteurs de stress, de perte de forme, de fatigue de cette longue saison et d'angoisse qui n'est pas du tout gérée. Ma conclusion, c'est comme Alex, la question n'est pas si maintenant ils ont une passe down, c'est où est-ce qu'elle va s'arrêter, parce que si elle ne s'arrête pas, c'est fini pour eux.
Ouais, bien sûr. Et moi, quelque chose qui m'a marqué aussi, c'était les gestes d'incompréhension entre les joueurs, en fait. On avait l'impression que ils jouaient leur premier match ensemble, quoi. Et effectivement, dans un sport d'équipe, c'est extrêmement dommageable. Alex, toi, ton analyse.
Mais disons deux choses. Tout d'abord, de ce que Steve disait, tu as deux écoles des playoffs. Tu as l'école du chassé et l'école du chasseur. Forcément que le chassé ne va jamais aimer être chassé. Et donc, l'Union le connaît, parce qu'il y a 2 ans, ils étaient aussi en tête du championnat, pour l'avoir très bien vécu. Tu as beaucoup plus de stress étant chassé qu'étant chasseur. Et des équipes comme Genk qui arrivent par miracle... ou par jeu égal avec Westerlo dans les playoffs, ils ont tout à gagner. Donc, pour eux, ils recommencent une nouvelle compétition.
Le standard 2011.
Par exemple, si tu commences... Mais non, mais tu rigoles, mais tu commences 6e, tu prends 26 sur 30, si je ne me trompe pas, tu termines presque ex aequo à la première place. Genk, il y a quelques années, avec Bruges aussi, hein, tous les deux, 80 points, la première année Covid full, avec playoffs. Et donc, tu as ces deux écoles différentes. Ça fait un peu, objectivement, l'attrait de ces playoffs. Je ne suis pas le plus grand partisan de ce genre de compétition, mais force est de constater, des équipes qui ont tout perdu comme Genk, ça produit un chouette jeu, ça change de tactique, ça va de l'avant, ça produit du spectacle. Bruges, hier aussi, Bruges était au fond du trou, il y a 2 semaines, tout était catastrophique, il y avait le feu au stade, il n'y avait plus rien qui allait. Et en une fois, hier, ils ont joué un match référence que je n'ai pas vu depuis longtemps au club de Bruges.
Ça, on y reviendra.
Tu as ces deux écoles-là. Et maintenant, oui, pour l'Union, tu es chassé. Tu as peur, tu as la boule au ventre, tu as le stress, tu as l'impression, tu as ce sentiment...
Que le monde entier est contre toi.
Pas que le monde entier est contre toi, mais...
L'interview de Blessing, c'était un peu ça. Hein.
Oui, mais ça, c'est manigancé, c'est téléguidé, c'est comme son interview de pré-match dans la semaine. Mais ici, oui, tu as beaucoup plus de stress parce que tu as tout à perdre. Mais en voyant le résumé, parce que j'étais à Bruges, donc en voyant le résumé de l'Union, je me suis dit, mais en fait, ce match... On en avait vu des dizaines de l'Union comme ça les dernières années. Contre le Cercle aussi, notamment, il y a 2 ans. L'Union est menée 0-2 et elle réussit à renverser la vapeur avec une remontada et faire 3-2. Et vu le match, la physionomie du match, les occasions, etc., je me suis dit, mais en fait, ce match, tu le joues il y a 5 mois, l'Union gagne 3-2. Sauf que si le Cercle va gagner 1-3 ou 2-3. Et c'est ça cette différence. Et il y a énormément qui se joue au mental.
Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, selon toi, qui connais bien le monde de l'intérieur de ces groupes-là ?
Mais tu sais, je conseille un autre club, d'autres clubs aussi. Même si on parle de com, forcément avec le coach, on arrive parfois au sportif où on me demande mon avis parce que je ne vais jamais le donner moi-même. Mais un match du titre, un match de promotion, un match où tu as besoin, où c'est binaire, tu te qualifies, tu es éliminé, tu gagnes, tu perds la coupe ou quelque chose comme ça, tu montes ou tu ne montes pas, ou tu ne descends pas ou tu restes en professionnel, parce qu'il y a les playoffs 3 aussi, où là ils jouent tous avec la boule au ventre, ils font tous des matchs nuls, 0-0, c'est dramatique à voir. Mais tu ne sais pas enlever ce facteur mental, tu as une effervescence, tu as une assistance médiatique qui est beaucoup plus prononcée pendant la semaine aussi, donc ça joue automatiquement dans la tête des joueurs. Et pour reprendre même l'exemple de l'Union, face au RWDM, le match de la montée il y a 3 ans, tu survoles la compétition. Tu avais 4 longueurs d'avance sur tout le monde, 20 points à un moment, et pourtant, ce match face au RWDM qui ne jouait pas une grande saison,
Ce match, tu le gagnes 4-0, 4-1, 4-2 toute l'année. Mais ce match-là, jusqu'à la dernière seconde, tu te serres les fesses, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mmh. Tu as encore peur et tu as encore un ballon qui passe quelques centimètres à côté à quelques secondes du terme. C'est des matchs spéciaux, c'est ce type de match. Sauf qu'en play-off 1, ce type de match, bah, tu en as 10 d'affilée.
Oui. Et moi, tu disais, Blaise, l'incompréhension entre les joueurs. C'était très marquant parce que ceux qui ont suivi l'Union pendant l'année... Je ne dis pas que c'est un titi taquet, faut pas rigoler non plus, mais tout de même, il y a une espèce de jeu en un temps, en bloc, qui était très réussi, vraiment très réussi, avec des passes, toujours en première intention, c'était assez impressionnant.
Et là,
on voit, moi, après moi, il y avait, du côté gauche, il y avait la Poussin, 2-3 balles qui sont arrivées, des contrôles complètement ratés, des éléments où ils ne savent plus. Amoura, sa pointe de vitesse, il se faisait rattraper chaque fois par les défenseurs. Il y a vraiment tout ce qui fonctionnait, foire.
Et un facteur essentiel, c'est la fatigue. Parce que là où tu vas te dire, allez, on va encore the mile extra, où tu vas encore essayer de le faire, là, tu as la fatigue qui t'empêche de le faire.
Et en plus, enfin, je ne veux pas leur trouver d'excuses, mais il fait chaud hier. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est
pas pour un footballeur, c'est pas.
Ça va, c'était les deux équipes, hein.
Ouais, ben non, je sais, mais on sait.
Non, tant je vois le mal est plus profond que la chaleur.
Tant qu'il ne fasse pas caniculaire, tu n'as pas trop de soucis. Évidemment, tu as certaines périodes religieuses qui impactent aussi, mais là, il était 13h30, donc c'est pas une excuse non plus.
Et en tout cas, c'est vrai ce que tu dis. S'ils gagnent contre Anderlecht dimanche.
Et puis ils font un bon résultat. Il n'y a plus aucun problème.
Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus de problème, mais en tout cas, voilà, il y a une phase qui est passée. S'ils perdent contre Anderlecht dimanche.
Ah oui, c'est.
Non, c'est pas... rien n'est fini dans les playoffs.
Les playoffs vont.
Les playoffs, c'est oui, comme tu dis, c'est des matchs binaires, mais 10 d'affilée.
Eh bien, tu parles d'Anderlecht, c'est l'occasion pour nous de parler d'Anderlecht, du coup. Anderlecht qui s'impose 3 buts à 1 face au club de Bruges à Bruges. Ça fait qu'ils sont les deux clubs à égalité. Bah, du coup, Alex, comme toi, t'étais au stade, on va en parler avec toi, juste je rappelle. Donc, c'est 35 points pour l'Union et Anderlecht. Au final, statu quo devant. Et cette défaite d'Anderlecht minimise plutôt la défaite de l'Union, en tout cas au classement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match? Et puis, sur Bruges va avoir un peu du mal à remonter, mais surtout de cet Anderlecht-là en vue du titre.
Je n'ai pas envie de voir Bruges remonter ou de dire que Bruges va être pour le titre ou quelque chose comme ça. Je pense que, un, c'est trop tôt, et deux, une hirondelle ne fera pas le printemps. Et Nicky Hayen, le coach à intérim, l'a dit après le match. Mais en tous les cas, j'ai vu un Bruges conquérant. J'ai vu un Bruges qui avait envie. J'ai vu un Bruges où le public s'est reconnu dans l'ADN de ce qui était proposé sur le terrain. Et pour jeter le pavé dans la mare, tu n'avais ni Mignolet ni Van Aken. Qui était sur le terrain.
C'est ce que beaucoup de monde a dit.
Ouais. c'est ce que j'ai dit avant le match. Avant d'aller, on me regarde de travers quand on s'attaque.
Oui, Vanaken, oui, mais vu Mignolet.
Mignolet, c'est... Enfin, bon, dans les vestiaires, c'est vraiment pas le joueur à avoir. Mais toujours est-il que sans ces deux joueurs-là, très prévisibles, qui font des bourdes, qui jouent à la carte quand ils ont envie ou quand ils n'ont pas envie, tu avais un Bruges conquérant. Et tu as un Nicky Hayen qui a travaillé sur deux choses, la motivation et les phases arrêtées. Parce que le premier but vient sur une phase arrêtée qui a été construite et qui a été répétée à l'entraînement. Mekele, qui est devant le gardien, qui avance de 3 mètres pour reculer et mettre une tête croisée, tu ne le fais pas par hasard. Et après, le staff Hayen a également étudié l'adversaire. Parce qu'Onyedika se retrouve...
Justement, j'allais parler d'Onyedika.
Il se retrouve à deux reprises... C'est pas sa position, Onyedika, c'est un 6. Il se retrouve à deux reprises, entre les 14 et les 23 mètres, devant le goal d'Anderlecht, sans aucun adversaire autour de lui.
Parce qu'il a déjoué, il a déjoué les positions, justement. Ouais.
Il a déjoué les positions, mais ça veut dire... C'est pas la première fois qu'Anderlecht laisse de l'espace à cet endroit-là. Et ça, le staff l'a vu, le staff l'a étudié, le staff a fait monter un joueur avec de la puissance dans son pied à cet endroit-là, en lui disant... Tu frappes, si elle est cadrée, elle rentre. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On en revient au standard, il y a quelques mois, tu te souviens. Hein, si tu frappes, c'est cadré. Oui. Donc Bruges a étudié parfaitement Anderlecht. Et ça, sous Ronny Deila, tu n'avais pas. Ronny Deila est peut-être un bon motivateur, mais côté tactique, côté travail phase arrêtée, tu avais zéro. Et donc, les trois buts viennent du staff Nicky Hayen. Et donc, franchement, chapeau d'avoir ravivé cette équipe avant le double match contre le PAOK et la suite des playoffs.
Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était dès le début, le pressing haut qu'ils mettaient. Anderlecht était étouffé.
Mm-hmm. C'est ce qu'Anderlecht avait fait il y a un mois à Bruges.
Oui, mais Bruges, on l'avait plus vu ça depuis longtemps. Alors que c'est vrai, tu as raison, c'est l'ADN brugeoise. Sweat and Glory, va vraiment. C'est vraiment l'ADN d'avoir surtout à la maison. Un rouleau compresseur, le premier quart d'heure à Bruges, il faut pouvoir se le farcir. Mmh. Et là, ce qu'on n'avait plus, on avait déjà plus l'année passée, on avait déjà beaucoup moins. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Et chapeau à cet entraîneur d'avoir trouvé la motivation. Mmh. Et là, maintenant, en parlant de chasseur et de chassé, là, on a clairement un chasseur qui n'a rien à perdre toute sa saison. De toute façon, ouais, le but était d'être en Europe et de préparer la saison prochaine. Ils sont à 5 points.
Hein. Ils sont à 5 points et
tout le monde va craindre d'aller jouer contre eux.
Oui, mais non. Il faut garder un peu les pieds sur terre.
Oui, non, bien sûr.
Bruges sort de moi, au pluriel, catastrophique. Bruges, aujourd'hui, doit se concentrer pour avoir cette troisième place. Parce que Genk, ça ne sera pas de la tarte non plus. Hein. Et tu as un back-to-back au milieu des playoffs, Bruges gagne Bruges. Bruges doit assurer cette troisième place parce qu'avant qu'ils s'en rendent compte, ils peuvent se retrouver cinquième ou sixième.
Non, sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, il y a une éclaircie assez impressionnante qui n'était pas attendue. Et donc, on va devoir compter sur eux d'une façon ou d'une autre. Attention, ils jouent la Coupe d'Europe. Hein. Et ouais, ils ne veulent certainement pas la gâcher parce que là, clairement, il y a quand même un boulevard en Conference League. Hein.
Non, oui. Tu es... en théorie, dans le carré le plus simple pour y arriver. Donc, tu as maintenant jeudi soir, PAOK Thessalonique qui vient à Bruges. L'autre match qui se joue en même temps, c'est Fiorentina contre Pilsen. Et après, tu as une finale à Athènes éventuellement le 31 mai.
Si okay, mais donc,
le 29 mai, pardon. Je veux dire, le PAOK, c'est pas facile. Hein.
Personne n'a dit que c'était un oseuse pour le chat, mais on n'est pas en Ligue des Champions.
Non,
on est face à des clubs. Ils vont jouer que contre des clubs qui sont peut-être de force équivalente ou un peu meilleur, mais qui sont tous battables. On ne joue pas le Barça, on n'est pas l'Antwerp en Ligue des Champions. Hein. on est vraiment là en Coupe de... Donc, et face à une saison ratée, comment réussir une saison? Oui, réussir potentiellement des play-offs. Mais alors, être dans le dernier carré d'une coupe d'Europe, il y a plus... Voilà, ça fait longtemps qu'un club belge n'a plus fait ça.
Le PAOK se dit la même chose.
Mais je n'ai pas du tout dit que c'était facile. Ils se disent aussi.
D'ailleurs,
oui.
Tu as PAOK et Olympiakos, tu as deux clubs grecs, ils savent qu'ils jouent à domicile. Hein. Donc, ils ne sont pas là par hasard non plus en quart de finale, les deux clubs grecs. Donc, ça ne va vraiment pas être facile. Mais Bruges doit se donner à 400%. Mais il y a le match de l'Antwerp dimanche. Et ce match-là, c'est de nouveau un match à 6 points. Mais là, tu écartes l'Antwerp de la course, en tous les cas, à la troisième place. Ce qui devra permettre à l'Antwerp de se focaliser à 200% sur la finale de coupe. Qui se jouera contre l'Union au début mai. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer.
Parlons d'Anderlecht. Vous avez été surpris, enfin, visiblement vu le match, pas trop, mais c'est quand même surprenant de les voir se perdre en plus sur un score lourd comme ça.
Ça m'a surpris qu'en une fois Bruges mène 3-0, oui.
Oui.
Vu la physionomie du match, un petit peu moins, mais après, c'est des matchs de play-off et Anderlecht. Tu vas à Bruges, tu sais que l'accueil sera très hostile parce que tu y as gagné de manière assez spéciale.
C'est le plus grand, à part la Gantoise, hein, où tu as le battle des Flanders Battle. Là, oui, mais donc, sinon, Anderlecht, c'est le plus grand ennemi de Bruges.
Ah non, c'est le pire ennemi. C'est l'ambiance, elle est 4 fois pire face à Anderlecht. J'ai vu des scènes par le passé face à Anderlecht que je n'ai jamais vu ailleurs. Donc. C'est l'accueil est très hostile par la victoire d'Anderlecht il y a quelques mois en plus. Ils viennent avec la peur au ventre et ils ne savaient pas quoi faire. Et là, évidemment, bon, tu as le pressing haut, le premier corner, Michael qui marque, tu as le stade qui s'enflamme. Et là, Anderlecht a perdu complètement pied. Même Riemer a pris une carte jaune, il a perdu pied aussi.
Alors, moi, je vais continuer sur ce que j'avais dit la semaine passée par téléphone. Hein. Je trouve qu'Anderlecht est complètement... Les résultats sont tous très flatteurs pour cette équipe d'Anderlecht. Je répète, je l'ai dit, Anderlecht est la meilleure équipe de ces 10 dernières années. Certainement, il y a un fond de jeu, chose qu'il n'y avait pas. Mais honnêtement, Anderlecht, je les ai trouvés, à part dans un match ou deux, j'ai trouvé de manière très, très, très peu impressionnant. Mm-hmm. Et j'ai vraiment été étonné de leur série, finalement, où ils arrivent à coller à l'Union, parce que, honnêtement, il y a énormément de matchs. Je me dis, mais comment ils font pour gagner celui-là? Ils s'en sortent pas mal. Et le match contre Bruges aussi, hein, ils jouent extrêmement bien le dernier quart d'heure, là, quand ils font 1-2 avec ce goal du petit nouveau.
C'est
là.
Le dernier quart d'heure. Le Angulo, il marque.
C'est le dernier quart d'heure. Honnêtement, donc, moi, je ne suis pas tellement étonné. En fait, là où je suis étonné, c'est de me dire, tiens, ils ne sont pas réguliers. On s'était déjà dit ça contre Courtrai, hein. Il y a le dernier match de phase classique, mais ils ne sont pas réguliers. Comme, alors qu'ils l'ont été pendant une série d'années. Mais au niveau, je trouve, au niveau qualitatif, si Hazard ne tourne pas, et si Dolberg ne tourne pas, pour moi, cette équipe est assez commune. Hein. Est assez commune. Elle est pourtant, je trouve, qualitativement bonne, mais elle dépend très fort de ces deux individualités. Et moi, je l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout un fan de Riemer. Je trouve qu'il n'exploite pas toute la qualité qu'il a. Je trouve extrêmement... arrogant aussi, arrogant vis-à-vis des équipes, très, très sûr de lui, alors que finalement il n'a absolument jamais rien gagné.
En conférence de presse, il était exceptionnellement arrogant en disant que Bruges marquait des buts qui avaient 0,1% de chance d'être au fond.
Oui, il est extrêmement arrogant et je me dis, bon, ça peut-être qu'il va bien avec la Den Anderlecht, hein, qui est quand même cette équipe, équipe historique, plus titrée de Belgique, avec, qui peut se permettre d'avoir l'arrogance. Mais lui
qui a acheté le plus de titres aussi.
Mais ça, je ne dis pas. Mais lui ne peut pas se permettre. Anderlecht peut se permettre d'être arrogant, certainement. Lui ne peut pas se permettre. Mm-hmm. Il n'a absolument rien gagné. Et avec le noyau en sa possession, je pense qu'il n'a rien prouvé. Maintenant, je persiste à penser qu'ils sont les mieux placés pour être champions cette année.
Mm-hmm. Toi aussi, c'est ton avis, Alex ?
J'ai dit, c'est très difficile, je n'ai pas envie de miser sur tel ou tel cheval, ça fera plaisir aussi au de l'Union, mais il a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Mais non, c'est trop tôt, j'attends encore quand même patiemment la première phase de ces playoffs. Et comme on disait là tout à l'heure, tu as une équipe qui gagne, elle file vers le titre, tu as un match nul, tu as deux équipes derrière qui gagnent, en une fois tu es dans une course à quatre. Mmh. C'est impressionnant. On va se retrouver dans un système comme, si ça se trouve, on va se retrouver comme l'année passée à la dernière journée. Et là, c'était pas la boule au ventre, c'était les pleurs, les larmes dans les yeux. Là. Mm-hmm. Donc,
Oui. Ce que je ne veux pas, c'est faire un pronostic. Je suis d'accord avec toi. Parce, tout simplement, et tu as raison, c'est impossible. Il y a 5 points de retard, Bruges, avec l'Union Anderlecht. Si l'Union Anderlecht impair. Et que Bruges gagne, il sera que 2 points d'écart. Donc clairement, tout pronostic est impossible. Je le pense depuis le début d'ailleurs, qu'Anderlecht est le mieux placé. Le mieux placé ne veut pas du tout dire qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils ont pour eux le noyau, ils ont pour eux la régularité, et ils ont pour eux le fait qu'ils jouent certainement, ils ont peut-être moins à perdre, ils jouent peut-être moins avec la peur au ventre. Et ils ont, bon, le public...
Ils ont
leur public et ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont leur public quand même qui a faim. Hein. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus. Enfin non, pas 10 ans. Ça fait 7 ans qu'ils n'ont plus eu un titre. Donc le public a logiquement faim. Moi, je vois déjà des amis supporters d'Anderlecht. Je les ai jamais vus comme ça. Ils sont complètement fous. Je vais même croire qu'ils vont finir par faire la fête sur la grande place s'ils sont champions. Faut pas exagérer, c'est supporters d'Anderlecht, mais tout de même. Et donc je me dis qu'ils sont bien placés, mais on vient lundi prochain, on parlera peut-être encore d'une toute autre réalité s'ils perdent contre l'Union.
Mais à Anderlecht, et il y a surtout les 4 premiers noms sur la feuille de match, et en ordre chronologique, c'est Schmeichel, Hazard, Dolberg, Vertonghen. C'est un joueur avec, je ne sais pas combien, plus de 50 ou 70 matchs en équipe nationale, à sa position, dans chaque partie du terrain, avec une énorme expérience. C'est les 4 premiers de la feuille de match, c'est les 4 premiers noms que tu remplis, et c'est les 4 plus expérimentés qui savent ce que c'est de gagner un titre, qui savent ce que c'est de tuer un match, qui savent ce que c'est de gérer un match, et qui ne vont pas perdre tout comme à Bruges ce week-end.
Ah, je suis d'accord. Et je crois, moi, que... En fait, peut-être je me trompe, mais le facteur déterminant de la bonne réussite d'Anderlecht, c'est souvent été l'état de forme d'Hazard.
Justement, je voulais venir là-dessus. Il nous reste quand même quelques matchs, là, mais vous en tirez quoi de la saison de Hazard ? Et pour continuer, hier il fait un pas très bon match et ça s'est vu.
Moi je la trouve moyenne, je m'attendais à mieux.
Oui, je trouve aussi que c'est une saison très décevante. Très décevante, on s'attend... Bon, il est arrivé blessé, d'accord, mais très décevante pour quelqu'un de son niveau, vraiment. Par contre, je trouve que les 4-5 matchs où il a été au top, ça a directement rejailli sur toute l'équipe. Et donc je me dis que s'il sort encore 4 bons matchs dans les playoffs, c'est tout bon pour Anderlecht. Mais clairement décevant. On s'attend de lui qu'il apporte, voilà, que ce soit la star de l'équipe. Hein.
Samedi, parce qu'une équipe qui fait son petit bonhomme de chemin dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est Genk qui s'est imposé 1-0 face à l'Antwerp avec un but de Heitelage. Au final, on parle beaucoup de Bruges, mais Genk qui sont devant.
Oui, c'est ce que j'ai dit là tout de suite. Genk n'a rien à perdre. Genk était sixième. Genk a perdu ses meilleurs joueurs. Pencil, qui est parti dernièrement aussi avant les playoffs. Ils ont vendu. Et ils se retrouvent avec un coach qui n'avait plus rien à perdre non plus, qui a changé sa tactique. Il joue en une sorte de 3-5-2, 3-6-1 hybride. Avec que des milieux de terrain, parce que le reste est blessé aussi. Enfin, que des milieux de terrain, je parle au milieu de terrain, des milieux centraux, pardon. Ils n'ont rien à perdre. Ils jouent leur petit jeu. Et oui, ça me rappelle il y a quelques années quand je disais ils ont terminé ex aequo 80-80 avec Bruges. Je pense que le championnat a duré une journée de plus. Genk était champion à l'époque aussi.
Et donc deuxième victoire d'affilée après avoir battu l'Union.
Genk, ça a toujours été, quand il joue bien, toujours été une magnifique équipe des années. Ouais. C'est peut-être une des équipes les plus régulières de ces dernières saisons.
Dans leur conjoncture.
Dans leur conjoncture, parce qu'ils n'ont jamais l'ambition d'être champions.
Ouais.
Mais ils sont extrêmement réguliers et ils ont des coups d'éclat. Moi, ce qui m'a marqué très fort contre l'Union, et je trouve le match samedi aussi, c'est Elhadj qui sort du placard. Moi, un de mes très bons amis sur Anderlecht m'a toujours dit que c'était son chouchou. Il ne comprenait pas pourquoi il n'a pas réussi à Anderlecht. Oui, c'est ce que je disais aussi. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que il était mis aussi au placard à Genk. Mais là, il est sorti du placard. Les deux matchs, son association, je l'ai pas vu samedi, mais son association avec comment s'appelle-t-il, le marocain
Bilal
Elkanous contre le match la semaine passée au milieu de terrain, c'était des flammes. Vraiment des joueurs magnifiques, bien positionnés, très techniques, totalement imprévisibles. Ça vraiment, c'était comme quand il y a un goal à Genk, quoi. Il y a des flammes qui sortent. C'était vraiment très impressionnant. Et oui, Genk, et comme tu dis, ils ont perdu Pencil. Et ils arrivent, saison après saison, en perdant leurs meilleurs éléments, à chaque fois tout doucement reconstruire. Et il faudra, comme chaque année, compter sur eux, quoi.
Mais c'est ce que je dis, c'est la conjoncture de Genk depuis les années 90 déjà. C'est un club, ils sont au milieu de classement, ils vont vers l'Europe, ils montent, ils gagnent une coupe, ils gagnent un championnat, ils redescendent au milieu de classement et ils reprennent. Et c'est cette conjoncture sur 5 ans à chaque fois qui se revient, qui se retraduit, qui revient. Une fois qu'ils ont été champions, ils vendent cher et vilain leurs joueurs. Les Stroupard, les Oulare, les Good Johnson à l'époque. Après, on était passé sur Song, Dagano qui sont partis. Et c'est à chaque fois la même conjoncture, sauf que cette conjoncture, elle est montante parce que Genk reçoit de l'argent, sait réinvestir dans son stade, son centre de formation, ses jeunes, son développement. Et c'est un club qui se développe par palier de 5 ans comme ça.
C'est un club sain. Et alors, c'est un club qui prend pas mal de jeunes. Parce que on sait que tous les clubs se prennent des jeunes. Mais ils arrivent à convaincre pas mal de jeunes d'autres clubs belges à venir chez eux dans l'ensemble de formation.
Par exemple.
Il était déjà en équipe première, Anderlecht, hein, mais je parle des gens qui sont en équipe de jeunes.
Ils ont compris où était le vivier. Parce que si tu regardes leur feuille de match, c'est Elouaï à droite, qui vient du RWDM, c'est Elhadj, c'est Elkanous, c'est des petits footballeurs Agora du centre de Bruxelles, qui ont appris à jouer dans la rue, qui ont une certaine force de caractère aussi. C'est pas les Brandon Mechele où grand-père, il les ramène à l'entraînement tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. Ils savent se battre, ils savent ce que c'est d'être dans la merde, vulgairement dit. Et sur le terrain, ça se ressent aussi. C'est ces joueurs, ils ont une certaine mentalité. Et c'est ça qui permet à Genk de performer aujourd'hui.
C'est un enjeu. Enfin, c'est encore un autre sujet qu'on pourra aborder dans une autre émission. Mais le vivier bruxellois qui apparemment, je lisais un article, n'est pas assez exploité. Il y a trois clubs de Bruxelles qui sont en division 1 et qui n'exploitent pas assez. Je savais les deux autres, mais je pensais qu'Anderlecht l'exploitait mieux. Apparemment, il n'exploite pas suffisamment le vivier des jeunes bruxellois.
Anderlecht ne sait pas l'exploiter plus. Anderlecht, il y a une certaine, tu dois garder un certain équilibre dans ton équipe aussi. Tu ne peux pas jouer avec 11 gamins agora. L'Union, il n'y a aucun jeune qui sort et ce n'est pas du tout l'ambition des Anglais de faire sortir des jeunes. C'est du trading de joueurs. En plus, avec Brighton comme carotte derrière, on dit « Ah, mais tiens, tu viens à l'Union, tu auras un palier vers Brighton. » Undaf, McAllister, il ne vient pas pour le plaisir de jouer à l'Union. Il ne faut vraiment pas se leurrer pour ça non plus. Et du côté du RWDM, là, il n'y a rien. C'est encore plus simple. Donc...
mais c'est vrai. Bon, Steve, c'est les vacances au Standard, là.
C'est fini, non? On prépare la saison prochaine, non?
0-0 face à OHL.
Il y a des bons 0-0.
Ouais.
Celui-là n'était pas un bon 0-0.
C'était extrêmement embêtant, non?
Quand tu disais extrêmement, tu répétais deux fois extrêmement. Je me suis demandé ce que tu allais mettre comme adverbe ou après.
Ouais, j'aurais pu être grossier, mais. Ouais.
Alors, j'ai suivi ce match d'un œil ou d'une oreille, ce qu'on veut. Oui, Oui.
Il n'y a rien à faire.
Ça se tire en longueur. Hein, ouais, cette saison, jouer contre Rachel à la maison dans un stade vide et faire 0-0. Voilà, je pense que l'enjeu, il n'est plus là. Mm-hmm. L'enjeu, il n'est plus là pour le Standard. L'enjeu, il est à la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de cette saison qui arrive avec qui quoi, comment, quels moyens on en est là au Standard. On n'est plus du tout là-dedans, dans cette réflexion. Il y a eu une interview de directeur sportif il y a une semaine qui a dit « il ne faut pas s'inquiéter, on va trouver plein de joueurs gratuits, même si on n'a pas de budget, mais des joueurs gratuits. Qu'est-ce que vous avez comme joueurs gratuits ?» Les joueurs gratuits qui sont bons parce qu'ils sont en fin de contrat, c'est des gens qui veulent des plus grosses primes à la signature, sont des gens qui veulent un plus gros contrat. Donc, ok, vous n'allez pas les payer, il faut savoir les rémunérer. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? Je crois que les matchs, ils se passent plus sur le terrain, ils se passent en coulisses là pour le moment.
C'est peut-être les joueurs qui ne sont pas assez bons pour la Genoa, Séville et Kaiserslautern. Enfin, Kaiserslautern va descendre en D3 allemande, c'est une prouesse, malgré la finale de la Coupe d'Allemagne. Mais c'est peut-être des joueurs qui ne sont pas assez bons pour ces équipes-là. Ça, c'est quand même très inquiétant.
Tu rappelles le lien entre ces clubs
777 Partners, qui est un holding américain. Je parle sous...
Un fonds d'investissement américain.
Qui possède plusieurs clubs en Europe et qui fait du trading aussi entre joueurs, entre clubs, qui a une ambition, c'était de retourner Kaiserslautern en Bundesliga avec un stade de 52 000 places qui est plein à chaque match. C'était assez louable. Ils y étaient presque l'année passée, mais cette saison, ils ont de nouveau pas investi, comme au Standard, en se disant très naïvement et à l'américaine qu'une saison peut être la même que l'autre, sauf que la conjoncture du foot n'est pas du tout comme
puis
ça.
Ils étaient concentrés sur la tentative de rachat d'Everton aussi.
Oui, mais ça, c'est quand même encore un sacré problème. Everton a 89 millions de livres de déficit. Ils vont encore perdre des points.
On vient de le retirer.
Oui, mais ça, encore. Hein. Donc, ça sent vraiment bon la Championship pour l'inauguration du nouveau stade du côté de la Mersey.
Donc, oui, non. Voilà, au Standard, je pense qu'on a tous... on mange son pain noir. On lit les articles où on se dit que Venanzi est en train, avec des Russes, d'éventuellement de racheter, parce qu'il n'a pas payé la dernière tranche, racheter une partie du club. Voilà, on essaie de se raccrocher à ça. On est dans l'extra sportif. On n'est plus dans le sportif pour le moment. Donc les matchs sont les matchs, on les suit parce qu'il y a l'amour du maillot. Il y a l'amour des lieux. Il y a l'amour du maillot, et comme ils aiment chanter maintenant... ils chantent pour le maillot, pas pour ceux qui le portent et qui ne le méritent pas.
C'est mignon.
Ils chantent ça. Hein.
Ah ouais, mais c'est mignon.
Voilà, ils disent vous ne le méritez pas, mais nous on est là.
C'est la
chanson qui est la plus chantée au Standard.
On va noter avant que Blaise passe à la suite, on va quand même noter que l'intelligence des supporters du Standard sur ce coup, qui ne commence pas à tout casser, qui ne commence pas à foutre un bordel monstre ou à boycotter l'équipe, ils restent supporters de leur club sans forcément adhérer à la stratégie. Structurel management ni aux joueurs qui sont présents, donc c'est quand même chapeau.
Oui, en même temps, hein, j'ai envie de te dire,
c'est résigné.
Les décideurs ne sont pas là. C'est que quand ils s'étaient rebellés pas mal de fois, ils se rebellaient contre qui?
Du Châtelet.
Ils se rebellaient contre Du Châtelet, ils se sont rebellés contre Venanzi, il y a même eu des tentatives de rébellion contre Donofrio. Il y avait une tête, il y avait quelqu'un contre qui se rebellait. Ici, on ne sait pas contre qui on peut se rebeller parce que tu te rebelles contre un fonds d'investissement qui, par définition, n'est pas matérialisé.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de personne à qui parler. Quoi.
Et donc ta colère ne peut pas se diriger contre quelqu'un, mais à un moment, la colère, je ne sais pas comment elle va se diriger, mais pour le moment, ça boue. Ça boue intérieurement.
20h48 minutes, on arrive bientôt à la fin de cette émission déjà. Alex, c'est l'heure de la minute Sportimize. Alors, de quoi on parle cette semaine ?
Eh ben, vous le savez peut-être, j'aime beaucoup le tennis. Je joue depuis de longues années. Et un sport émergent des dernières années qui est le paddle. Et le paddle souhaite évidemment grandir. Donc, il y a de plus en plus de terrains. On le voit aussi indoor, outdoor. Pour jouer au paddle, c'est un très chouette after work. D'ailleurs, on peut peut-être une fois aller, Steve. Et le paddle a signé quelques contrats intéressants les dernières années. Et on va se focaliser sur leurs raquettes. Parce que finalement, c'est l'outil principal de ce sport, hormis l'agora et le terrain sur lequel jouer. Et ils avaient déjà, dans le tennis, signé un accord entre Wilson et la marque de voiture Cupra. Et ici, c'est la marque de raquette Babolat, qui est également sponsor de Rafael Nadal. Ils ont signé un partenariat avec Lamborghini. Et donc, ils vont créer des raquettes Lamborghini dans les 5 coloris. Donc, on voit le magnifique jaune de Lamborghini, le rouge forcément. Et donc, 5 coloris différents, 50 raquettes par coloris qui seront vendues à des prix qu'on ne connaît pas encore. Mais par contre, ce sera bientôt présenté sur le circuit d'Imola en Italie parce que les raquettes seront produites à Bologne.
Okay.
Et donc, je voulais mettre ça en avant parce que c'était un partenariat évidemment très intéressant qui fera parler de lui avec de chouettes activations qui sont possibles. Peut-être pas destinées au tout grand public, mais en tous les cas, ça met le sport en valeur, ça met le sport en avant. Et je trouvais ça très intéressant.
Mmh. Et ma foi, très intéressant. Merci. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. On va finir quand même sur cette semaine de Ligue des Champions. On a des gros gros matchs, hein, dont Manchester City, Real Madrid qui se jouera demain soir à 21h. Et Manchester City qui abrite notre Kevin De Bruyne national, qui a dépassé, qui a atteint la barre des 100 buts inscrits avec Manchester City, son club, cette semaine, avec le brassard de capitaine autour du bras. Kevin De Bruyne est-il, en 10 minutes ça va être compliqué, mais Kevin De Bruyne est-il une légende de la Premier League ?
Sans conteste, oui.
Sans conteste,
évidemment. On a un point de vue biaisé parce qu'évidemment, on n'a jamais eu, à part Kompany, peut-être un joueur belge qui a autant brillé. Et donc, de notre point de vue, oui. Mais voilà, sa longévité parle pour lui. Et il suffit de regarder un match of the day en Angleterre pour savoir à quel point est-ce qu'il est adulé en Angleterre.
Et sa position aussi est une position plus offensive qui va permettre des assists. Il a plus de 150 assists, 100 buts maintenant aussi. Et sans mauvais jeu de mots, il n'a pas la grosse tête. Donc.
Ouais, et lui va nous, va peut-être nous porter. Hein. Il nous a manqué avec l'équipe nationale belge les derniers matchs pour l'Euro. On va sûrement avoir besoin de
mais
lui.
Mais on va voir son état physique.
On verra son état physique.
On verra son état physique parce qu'on l'a déjà vu, mais c'est pas anormal hein, quand on a une énorme blessure comme ça, oui. Qu'il faut du temps, qu'il a un peu replongé avec des petites choses. Donc c'est totalement normal. Finalement, si tout se passe bien, ce n'est pas une mauvaise chose pour les Diables, parce que moi, je fais partie de ces gens qui pensent que ces saisons sont très mauvaises physiquement. On ne peut pas jouer 50, 60 matchs comme ça, ça n'a pas de sens. Mais donc, il n'en aura pas joué ça. Faut voir, ça va être des vrais tests, hein. Un test contre le Real de Madrid, c'est peut-être son premier gros test de la saison. Voir un peu s'il a le rythme, s'il tient dans la longueur. Et on l'espère, de notre point de vue, être au plus frais possible pour l'Euro. Mais tout amateur de foot ne peut que se réjouir de regarder demain Manchester City avec De Bruyne et peut-être Doku et Haaland face au Real Madrid. C'est-à-dire que c'est très excitant comme rencontre.
En tout cas, tu parlais de son état physique. Moi, quelque chose qui m'a rassuré, c'est qu'après le match, il s'est présenté devant les caméras et il était très rouge. Et quand Kevin De Bruyne est rouge, c'est que il a fait un très grand match. C'est un peu le poncif. Autre match qui va être super intéressant demain, c'est Arsenal-Bayern Munich. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les deux matchs sont à la même heure, donc ça va être compliqué de voir les deux, d'être focalisé sur les deux matchs en même temps. Vous avez fait votre choix ?
Oui, aucun des deux. Mais non. À choisir, ce serait quand même Real Manchester City. C'est un peu une finale avant la lettre.
Ouais,
Arsenal Bayern, c'est le loserico pour moi.
Non, et puis surtout l'état de forme du Bayern cette année. Alors après, ils peuvent se rattraper cette première année de Kane, ils peuvent se rattraper pendant la Ligue des Champions, mais on les a rarement connus aussi fébriles en championnat national, donc ça fait perdre un tout petit peu de saveur. Mm-hmm. Et Arsenal, Arsenal, ils ont une bonne saison cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais sinon, Arsenal, étant dans de si, quand on compare par rapport à l'état de forme et à l'image de Manchester City et Barcelone ces dernières années, l'affiche penche clairement de ce côté-là. Hein.
Et tu parles d'Arsenal, Arsenal qui s'impose, qui donc prend la tête de la Premier League, une Premier League qui est extrêmement indécise cette saison, et Trossard qui marque un but avec Arsenal, une saison, ma foi... assez correct de la part tu me trouves dur.
Oui, il est quand même quelqu'un qui marque et qui est très souvent titulaire dans l'équipe qui est première du championnat d'Angleterre. Donc,
c'est
sûr.
Maintenant,
ça peut être un très bon joker pour l'Euro aussi. Hein,
moi, je comprends tout à fait. Par contre, je comprends parce que je me moquais très gentiment, mais je comprends ton interrogation inconsciente, hein, dans la manière dont tu formules.
Ouais,
la question va être ça, c'est qu'on sait qu'il a une valeur, mais on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on en fait en équipe nationale. Vraiment, est-ce qu'on le met titulaire? Est-ce qu'on le met comme joker? Si on le met titulaire, sa polyvalence est un atout, mais c'est aussi, finalement, on ne sait pas quelle est sa meilleure place, notre Trossard. Mais... tout le monde a un avis différent. Donc, on a du mal vraiment à se dire comment est-ce qu'on peut exploiter cette petite pépite. Vraiment du mal. Arsenal aussi, hein, parce qu'il n'est pas...
ouais, il est pas tout le temps titulaire. Voilà,
On ne va pas trop s'avancer, mais avec tout le respect, on joue la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Hein. Tu sais aligner trois équipes différentes face à ces équipes et encore prendre 9 sur 9.
Ah oui, mais moi, je regardais la deuxième partie de tableau. Hein.
Mais là, justement, si tu fais jouer tout le monde, tu prends les meilleurs et tu fais un beau melting pot de tout ça pour le prochain tour, parce que ça ne sera pas de la tarte.
Oui, on a déjà nos potentiels adversaires.
Je les ai pas en tête.
Je sais que la France arrive très rapidement.
Mais ça dépend. Tu es premier, tu es deuxième, tu es dans les meilleurs troisièmes. Bon, ouais. si tu fais 9 sur 9, forcément, tu seras premier.
Ça va être comme en 2018, on va se vouloir être premier, et puis on va se rendre compte qu'il aurait fallu être deuxième.
Pas forcément, mais.
Non, je crois pas non plus au calcul.
Aussi, pour parler des Belges à l'étranger, grosse performance de Loïs Openda, 2 buts et 2 passes lors de la victoire de Leipzig face à Fribourg, 1-4. Et il se rapproche de Romelu Lukaku et de Dries Mertens en termes de buts sur une saison pour les Belges à l'étranger. Mertens en a fait 28 et Lukaku en a fait 34 avec l'Inter. Et j'ai perdu où en est Loïs Openda, mais bon.
Conclusion, serial buteur en Bundesliga et potentiel encore pas bien exploité pour le moment, hein, parce que je crois qu'il va trouver sa place, hein, mais qu'on n'a pas encore réussi à l'exploiter en équipe nationale, parce que la saison qu'il fait là à Leipzig, on se posait la question si la marche n'était pas trop grande de Lens à Leipzig. Bah, la réponse voilà, a été apportée sur le terrain, comme on dit. On doit pouvoir l'exploiter.
25 buts et 6 passes décisives, voilà, je retrouve, en 39 rencontres, ce qui est quand même...
sérieux stats.
Ouais, qui sont de sérieux stats, mais bon, lui, il est dans l'ombre de, en tout cas en équipe nationale, de Romelu Lukaku.
Mais tout le monde est dans l'ombre de la génération précédente. Mm-hmm. C'est ça le problème aussi. On n'a pas tout le monde a cette perception d'avant, qui était une équipe qui a juste terminé 3e quand on disait que c'était la meilleure équipe du monde. Hein.
Pas dur.
Tout le monde a dit que c'était la meilleure équipe du monde. Oui, qu'est-ce qu'on a vu?
Un match, tu le gagnes ou tu le perds.
Non, je suis désolé. On a perdu contre une Argentine très mauvaise en 2014.
On n'était pas aussi bon qu'en 2018.
Certes, on a perdu contre un Pays de Galles très moyen en
2016. La grosse déception.
On a perdu contre une France très moyenne en 2018. Et on s'est fait éliminer par l'Italie en 2021.
Le moment où on était le meilleur du monde était en 2018. Et en 2018, sur un match, oui, ça peut arriver. Tu le joues 10 fois, tu ne sais pas comment ça peut arriver.
Et
je trouve qu'on était grillé.
Aussi, le Pays de Galles avant, ça ne pouvait pas arriver. Et pourtant, ça arrive avec cette génération.
Ensemble de mauvais choix dans ce match.
Oui, on sait que Wilmot, c'est un très mauvais coach.
Mais
j'ai travaillé avec, je le sais, je le dis, il est très mauvais. Il n'a rien fait de bon de toute sa carrière, ou peu importe où qu'il aille. Mais c'est la réalité, je suis désolé.
On va se faire des amis, ça, tu veux.
Non, mais c'est vrai. Les faits, les statistiques sont là. Mais après, cette génération dorée, tout le monde l'encense.
Ouais, ouais.
Mais tu as des joueurs qui ont énormément de talent maintenant, qui a un Trossard, par exemple. Bon, c'est pas hasard dans la tête des gens, mais il faut choyer ces joueurs. Ils jouent pas par hasard en Première Ligue, au top.
Il y a un Doku, on a réussi à l'exploiter en équipe nationale.
Oui, pour l'instant, mais il n'y a pas encore cette perception chez les gens. Je suis à fond derrière cette équipe parce que c'est des joueurs talentueux. Même un Théâtre, il tient la baraque en Ligue 1 aussi. Hein. Bon, ils sont un peu moins bons cette année, mais il tient quand même le truc. Tu dois faire confiance à tous ces nouveaux joueurs qui arrivent. Ok, certes, tous en une fois. La passation de pouvoir, elle est quand même abrupte. Mais il faut voir positivement de cet euro.
Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Il est 20h59. Juste rapidement, le moment avant de se quitter, je voulais souligner la performance stratosphérique de Mathieu Van Der Poel hier sur Paris-Roubaix, qui a littéralement écrasé la concurrence dans l'enfer du Nord, si on peut le dire. Il le remporte pour la 2e fois, donc félicitations à lui. Merci Steve d'avoir été avec nous.
Merci, c'était intense.
Alex,
hein.
D'avoir été avec nous. On avait un gros programme. programme. Et les prochaines semaines, eh bien, s'annoncent tout aussi relevé avec les playoffs qui continuent et des playoffs qui nous offrent un super spectacle. Merci Alex, à la semaine prochaine.
Merci Blaise, merci Steve pour ces avis juridiques très intéressants dans le foot.
Bonne soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Judaïka. Tout de suite, vous retrouvez une heure de musique sans pub et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.